VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil et Morgane Guériec. Bonsoir, bienvenue à l'édition de ce jeudi 14 mai 2015. À la une ce soir.
C'est encore la confusion au Burundi, un jour après l'annonce par un ancien chef militaire de la destitution du président Pierre Nkurunziza. Qui contrôle quoi? On va faire le point avec des journalistes et analystes sur le terrain.
République centrafricaine, libération aujourd'hui de plus de 350 enfants soldats dans la région de Bambari.
Les principaux groupes rebelles Touareg du nord du Mali ont paraphé ce jeudi à Alger l'accord de paix adopté en mars par Bamako.
Au Burkina Faso, c'est la fête chez les Sankaristes. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président Thomas Sankara, est arrivée ce soir à l'aéroport de Ouagadougou.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama tente de rassurer les États du Golfe lors d'un sommet à Camp David.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Au Burundi, il est impossible de dire qui détient le pouvoir. Au lendemain de l'annonce de la destitution de Pierre Nkurunziza, les putschistes disent contrôler Bujumbura. Les partisans du président burundais, toujours absent du pays, assurent que la tentative de putsch a échoué. Le point avec notre confrère Léon Massengo de la radio Bonesha à Bujumbura.
En ce qui concerne le putsch, c'est toujours une confusion totale. Personne ne peut vous dire en réalité qui dirige le pays actuellement. Après plus de 24 heures de négociations accordées pour éviter, disait-il, l'effusion de sang, le comité national pour la concorde est passé à l'autre possible. Jeudi, des combats intenses autour de la radio-télévision nationale. Très difficile de connaître le bilan pour le moment. Les journalistes ont été interdits de couvrir ces combats jugés de faciles au début par les putschistes, mais qui se sont révélés plus difficiles plus tard. La population a peur en petits groupes dans les quartiers. Les gens échangent et se posent des questions sur l'issue de cette crise. En traitant le président destitué Pierre Nkurunziza au téléphone depuis Dar es Salaam en Tanzanie, dans un lieu inconnu, il a affirmé sur les ondes de la radio-télévision nationale du Burundi que le putsch avait été déjoué.
Léon Massengo, une question qui demeure sans réponse claire. Qui contrôle l'aéroport de Bujumbura et la présidence?
La présidence est contrôlée par les forces loyalistes, mais un peu plus loin, il y a des barrières, des barrages, des putschistes qui ont été érigés. À l'aéroport international de Bujumbura, l'aéroport reste fermé, mais il y a toujours des combats autour de cet aéroport parce qu'il y a les loyalistes qui cherchent toujours à dégager l'aéroport et d'autres qui veulent que l'aéroport reste toujours fermé. De toutes les façons, depuis 3 jours, il n'y a pas eu de vol à l'aéroport international de Bujumbura. Les Imbonerakure, alors, c'est ça la grande question qui est posée notamment par les putschistes. Ils disent que les Imbonerakure doivent être désarmés et que cette milice doit être démantelée. C'est la même demande qui a été exprimée depuis longtemps par l'opposition et les organisateurs de cette campagne à la troisième candidature de Pierre Nkurunziza.
Léon Massengo de la radio Bonesha à Bujumbura.
En République démocratique du Congo, une motion de défiance a été initiée au Parlement contre le ministre de la Défense au sujet des massacres qui se poursuivent dans le territoire de Beni, dans le nord-est du pays. Sur le terrain, d'autres massacres ont été perpétrés, aggravant la colère de la population qui obéit au mot d'ordre de ville morte illimitée lancé par la société civile et qui s'est même étendue à d'autres villes comme Oicha et Butembo. On fait le point avec Eddy Sango.
La présence du ministre de l'Intérieur dans la région n'a pas empêché les assaillants de commettre de nouveaux massacres. Plus de 20 corps de paysans tués à la machette et à la hache ont été ramassés jeudi dans des champs et localités autour de Beni. C'est là, au lendemain des manifestations au cours desquelles la population a exprimé sa colère contre l'incapacité des autorités congolaises à arrêter ces massacres répétés. Le numéro 1 de la société civile à Benimbaou, Dikose Isesomo, dit qu'il doute que les ADF soient les seuls à commettre pareils actes de cruauté. Car, a-t-il indiqué, les auteurs des dernières attaques s'exprimaient en langue locale et sans accent. La société civile propose aux autorités une feuille de route pour évaluer l'offensive militaire contre les auteurs de ces attaques. Elle suggère même que la population soit autorisée à organiser sa propre sécurité. Plus de 350 personnes ont été tuées à la machette en 6 mois dans la région, sans compter les viols, les enlèvements et les pillages.
République centrafricaine, plus de 350 enfants soldats ont été libérés aujourd'hui au cours des cérémonies, deux cérémonies qui ont eu lieu dans la région de Bambari. Les Seleka, majoritairement musulmans, et les Anti-Balaka, principalement chrétiens, ont accepté de les libérer suite à un accord signé avec l'UNICEF. Il s'agit de la plus grande libération d'enfants associés aux groupes armés en République centrafricaine depuis que la violence a éclaté en 2012.
Les principaux groupes rebelles Touareg du nord du Mali ont paraphé ce jeudi à Alger l'accord de paix adopté en mars par les autorités maliennes et des mouvements pro-gouvernementaux. Toutefois, la coordination des mouvements de l'Azawad réclame de nouvelles garanties avant de signer un texte définitif. Jacques Aristide.
Cette coordination qui réunit le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad et le Mouvement Arabe de l'Azawad a déjà prévenu qu'elle ne se rendrait pas à la cérémonie prévue demain à Bamako pour la signature définitive. Pour la CMA, même en paraphant l'accord dans un esprit d'équité et de bonne foi, le document ne prévoit aucun mécanisme de garantie à l'égard des violations du cessez-le-feu pour éviter toute nouvelle escalade. Paris a salué ce qu'il appelle l'esprit de paix, de réconciliation du gouvernement malien et du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le conflit entre Bamako et les Touaregs a donné lieu à 4 révoltes armées depuis l'indépendance du Mali en 1960.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est l'événement du jour pour les sympathisants de Thomas Sankara au Burkina Faso. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, est arrivée ce soir vers 17h à l'aéroport de Ouagadougou. Elle vit en exil à Montpellier, en France, depuis l'assassinat de son mari en 1987. C'était lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Pour Maître Sankara, leader du mouvement sankariste, avocat de la famille, il s'agit d'un retour triomphal.
C'est un retour triomphal. Madame Sankara revient au moment où le supposé assassin de son mari n'est plus au pouvoir. Cela après l'insurrection, c'est une revendication très forte de la jeunesse de revoir Mariam Sankara et la famille Sankara soudée, parce que c'est cette image-là qui a plané sur le Burkina dès le 31 octobre 2014 quand Blaise Compaoré a pris la fuite. Elle vient pour saluer l'héroïsme du peuple burkinabé. Elle vient pour se mettre du côté du peuple burkinabé pour continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Voilà pourquoi elle va en même temps parrainer la convention d'union des Sankaristes, mais elle va aussi œuvrer à la manifestation de la vérité en se mettant à la disposition de la justice. Je pense qu'il y aura une très forte mobilisation. Déjà, nos militants sont à pied d'œuvre. Il y en a qui commencent déjà à aller à l'aéroport. Je pense qu'il y aura une forte mobilisation pour l'accueillir.
C'était le leader du mouvement sankariste et avocat de la famille Sankara.
Réunion du G5 Sahel à Niamey au Niger. Les États membres ont affirmé aujourd'hui leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et au trafic de migrants. Promesse soutenue par le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui les a appelés à une coopération renforcée. Créé l'an dernier, le G5 Sahel rassemble le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
Au Nigeria, l'armée a imposé aujourd'hui un couvre-feu à Maïdougouri au lendemain de la première attaque de Boko Haram en 2 mois contre la capitale de l'État de Borno et fief historique du groupe islamiste.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a procédé à un remaniement ministériel marqué par le départ des ministres clés de l'Intérieur, de l'Énergie et des Finances.
Le président américain Barack Obama et des hauts responsables de 6 nations du Golfe arabo-persique ont poursuivi leur sommet aujourd'hui à la retraite présidentielle de Camp David, à environ 100 km au nord de Washington. Au programme, la situation au Moyen-Orient, en particulier un éventuel accord sur le nucléaire iranien et les combats qui se déroulent en Irak, en Syrie, au Yémen et en Libye.
Après la destruction de plusieurs sites historiques en Irak, le groupe État islamique menace maintenant la ville de Palmyre, dans le désert syrien. Cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et c'est ce qu'a déclaré l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui souligne que plusieurs dizaines de civils ont été tués dans des villages proches de Palmyre.
En Afghanistan, les talibans ont revendiqué aujourd'hui l'attaque perpétrée hier soir contre un hôtel de Kaboul, durant laquelle 14 civils, dont plusieurs étrangers, ont été tués. Les échanges de tirs ont duré 5 heures. 3 des assaillants ont été tués, a déclaré le chef de la police de Kaboul, Abdulrahman. L'ambassade des États-Unis a confirmé la présence d'un citoyen américain parmi les victimes. New Delhi, de son côté, informe que 4 Indiens ont été tués. A rappelé qu'hier, un attentat suicide dans la province de Helmand a fait 10 morts et 12 blessés. Selon la mission d'assistance de l'ONU, près de 3000 civils ont péri en Afghanistan depuis le début de l'année.
Le Premier ministre indien Narendra Modi est en visite dans le village ancestral du président chinois Xi Jinping. Une visite qui pourrait servir à renforcer les liens économiques et diplomatiques entre Pékin et New Delhi. Il y a quelques mois, M. Modi avait accueilli le dirigeant chinois dans sa ville natale d'Ahmedabad.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Camille Grosdidier.
Dakar accueille cette semaine le Forum foncier mondial et à cette occasion, le vice-président du Fonds international pour le développement agricole, Michel Mordassini, a rappelé que les détenteurs d'exploitations agricoles en Afrique perdent souvent leurs terres au profit des grandes entreprises. La sécurisation foncière est un premier pas vers la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire, a-t-il souligné. Par ailleurs, des spécialistes ont plaidé en faveur du droit à posséder des terres pour les femmes. Le rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique à la Commission africaine des droits humains et des peuples, Soyata Maiga, a rappelé que les femmes jouent un rôle clé dans la production agricole, mais n'ont pratiquement pas accès à la terre. Les femmes accèdent à moins de 2% des terres du continent et ont de faibles revenus car elles ne reçoivent que 1% des crédits accordés à l'agriculture, ce qui explique l'absence de techniques agricoles modernes pour elles, a-t-elle expliqué. Madame Soyata Maiga a ajouté que les Africaines sont parfois spoliées car dépourvues de droits de succession à cause des mariages précoces qui leur dénient la capacité de participer au développement agricole. Et puis au Soudan du Sud, eh bien, démarrage de la saison des semis alors que les Nations Unies signalent des viols, enlèvements et incendies qui viennent s'ajouter aux combats parmi les plus violents en 17 mois de guerre civile. La FAO redouble d'efforts pour acheminer des semences, outils et autres intrants aux agriculteurs dans les États du Haut-Nil et de Unity. On écoute Serge Tissot, représentant intérimaire de la FAO au Soudan du Sud.
Pour l'instant, on distribue beaucoup de semences et d'outils dans l'état de Upper Nile et dans l'état de Jonglei, dans toutes les zones où la sécurité nous permet d'accéder. Donc on a toujours un programme qui va de l'avant. On distribue à la fois des semences pour des cultures vivrières, mais également des semences pour des légumes et de l'équipement pour la pêche.
Serge Tissot de la FAO.
La Minute Éco. Merci Camille Grosdidier.
Et qu'est-ce qu'on peut dire en sport, Bagassi Koura?
Eh bien, la Gambie a un nouveau sélectionneur. Il s'agit du Suisse Raoul Savoie. Il a été officiellement désigné ce jeudi comme sélectionneur des Scorpions. Passé dernièrement à la tête des Fauves du Bazoubangui de Centrafrique en fin 2014, Raoul Savoie reprend du service en Afrique donc.
Et on connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions.
Eh bien, c'est le 6 juin. Ce sera entre la Juve de Turin et le FC Barcelone. La Juve qui a fait match nul hier. Un but partout avec le Real Madrid.
Rendez-vous avec toute l'actualité sportive un peu plus tard sur VOA Afrique. Merci Bagassi. Ici chez Ruben Orsi, les Morgan Guiriec. Place au dossier du jour, bien sûr. Retour sur la volatile situation au Burundi, Morgan.
Oui, au lendemain de l'annonce de la destitution de Pierre Nkurunziza, difficile de dire qui détient le pouvoir. Les putschistes affirment contrôler Bujumbura, mais les partisans du président burundais, toujours absent du pays, assurent que la tentative de putsch a échoué. On écoute Willy Nyamitwe, porte-parole de Pierre Nkurunziza.
D'abord, c'est qu'il y a eu des mutins qui ont voulu faire un coup d'État et le putsch a échoué. Et maintenant, les forces loyalistes sont en train de tout faire pour amener la situation dans l'état normal.
Aujourd'hui, qui contrôle la radio-télévision nationale burundaise?
C'est l'armée loyaliste.
Et où se trouve Pierre Nkurunziza?
La question d'où se trouve le président de la République, c'est une question d'ordre sécuritaire. Je ne suis pas autorisé à vous répondre à cette question.
Mais est-il rentré sur le territoire burundais?
Je ne suis pas autorisé à vous répondre sur cette question d'une façon explicite.
Qu'est-ce que vous dites à la communauté internationale concernant cette tentative de coup d'État?
D'abord, nous félicitons la communauté internationale qui a pu condamner ce putsch, l'Union, la communauté de l'Afrique de l'Est, les États-Unis eux-mêmes, l'Union européenne, et surtout cet appel au respect de l'ordre constitutionnel. Donc, jusqu'à présent, le président de la République du Burundi, c'est M. Pierre Nkurunziza, et ce jusqu'au 26 août 2015.
Que pensez-vous du général Niyombare?
Alors, le général Niyombare qui a fait ce putsch, mais ce que je pense de toute personne qui pense encore à la voie de putsch ou à la voie de coup d'État, mais c'est ce que pense aussi la communauté tant nationale qu'internationale, c'est que les temps des coups d'État sont révolus. Il faut tout simplement que les gens reviennent à la raison, que les gens sachent que l'ordre constitutionnel doit être plutôt maintenu. Un officier supérieur de l'armée est censé protéger l'ordre constitutionnel et non pas être une pierre d'achoppement à l'ordre constitutionnel.
Donc encore une fois, ce jeudi matin, vous démentez tout coup d'État réussi à Bujumbura.
Il n'y a pas de coup d'État réussi à Bujumbura. Il y a eu tentative, ce qu'on appelle une farce. Parce que des gens qui se réveillent le matin, qui disent qu'ils peuvent prendre le pouvoir par les armes, ça, ce n'est qu'une fantaisie. Donc le coup d'État, c'est une fantaisie que nous avons vue ici à Bujumbura.
Opinion de Willy Nyamitwe, porte-parole de Pierre Nkurunziza. Mais les putschistes, de leur côté, accusent les loyalistes d'avoir ouvert le feu ce matin à la radio nationale. Et selon eux, c'est Pierre Nkurunziza qui a voulu mener un coup d'État contre la constitution burundaise. Idriss Fall a joint le général Zeno Ndabaneze, porte-parole du comité militaire qui affirme avoir destitué le président burundais.
À la radio nationale, nous, forces légalistes, comme nous l'avons exprimé dès le départ, tentons d'aller expliquer à la position qui garde la radio, qui provient de la garde présidentielle, de ne pas continuer à émettre des messages qui vont effectivement dans le droit chemin de violation des accords d'Arusha et de la Constitution. Malheureusement, on a trouvé que cette force n'est pas encore sensibilisée pour rentrer dans la raison et a préféré tirer sur nous. Nous avons riposté pour et la radio est toujours gardée par cette force.
Et qu'en est-il au niveau de la présidence?
La garde de la présidence n'a jamais été approchée, puisque la présidence est gardée par les mêmes hommes. Nous pensons que ceux qui gardent la présidence aussi pensent toujours comme ceux-là qui sont à la radio parce qu'ils sont de la même unité.
Qu'est-ce qui contrôle l'aéroport de Bujumbura?
L'aéroport est toujours fermé, on sort toujours l'appel. Si l'aéroport est fermé, si quelqu'un atterrit et qu'il y a un problème, ça ne serait pas sur le dos du comité.
Mais si vous ne contrôlez pas la radio nationale ni la présidence, qu'est-ce que vous contrôlez alors?
Nous ne contrôlons pas la radio ni la présidence, mais nous sommes avec le peuple qui défend la légalité, qui défend la constitution et les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale.
Trois radios privées ont été détruites aujourd'hui. Où étaient vos forces alors?
Nos forces ont été attaquées après avoir accompagner ou protéger le peuple manifestant qui ont ouvert eux-mêmes la radio RPA qui était fermée. La RPA a sollicité une protection militaire. Nous l'avons fait. Nous avons fait juste 4 éléments parce qu'on ne pensait pas qu'une armée vienne attaquer une position de 4 personnes qui protègent une radio. On ne pensait jamais que les radios peuvent être voire attaquées par la garde présidentielle. Malheureusement, ils sont venus en grand nombre comme s'ils venaient attaquer un camp militaire et ils ont délogé nos positions qui n'avaient pas la mission de faire combat.
Est-ce à dire que votre coup n'a pas été bien préparé? Parce que même Nkurunziza a lancé un message disant que le coup a échoué.
Nous, on n'a jamais déclaré que nous allons faire un coup. Nous avons déclaré que le président Kourouzé n'est plus président de la République. Parce qu'effectivement, et nous avons effectivement annoncé ce que la loi prévoit. Donc nous n'avons pas fait un coup d'État. Celui qui a fait un coup d'État, c'est plutôt Pierre Nkurunziza, qui a fait un coup d'État contre la Constitution et les accords d'Arusha.
Le général Zenon Dabanese, porte-parole du comité militaire, qui affirme avoir destitué le président burundais.
Alors, quel est l'impact des récents événements au Burundi sur la population civile? Timothée Donangmaï a joint Karine et Sirioko de la radio publique africaine, station partenaire de VOA Afrique à Bujumbura.
Les gens, d'abord, n'ont pas d'informations. C'est-à-dire que, ne sachant pas ce qui se passe exactement, vu que les médias ne fonctionnent pas, sauf peut-être la radio-télévision nationale du pays, mais qui n'est pas en train de donner des informations claires sur ce qui se passe dans le pays. Alors les gens, ne sachant pas ce qui se passe dans le pays, ils ne savent pas où et les lieux qui sont sécurisés, ils ne savent pas les lieux qui ne sont pas sécurisés. Quels sont les lieux qui sont peut-être aux mains des loyalistes, les lieux qui sont aux mains des putschistes. Et donc les gens ont préféré rester cloîtrés à la maison. Il est très difficile dans ce cas-là d'aller faire des achats, si l'on doit chercher quelque chose à manger pour la famille, si l'on doit chercher un peu d'argent parce qu'on n'a pas eu le temps de chercher de l'argent pour faire l'un ou l'autre achat. C'est très très difficile. On essaye, par exemple, dans mon quartier, on a essayé de se rabattre sur les boutiques qui sont dans les quartiers, mais les boutiques sont quasiment à sec, il n'y a plus rien, parce qu'imaginez tout le monde qui se dirige en même temps dans une même boutique, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus d'aliments nécessaires de base qu'on peut utiliser ou donner aux enfants, donc on se débrouille avec qu'on a particulièrement à la maison, en attendant que la situation peut-être redevienne normale.
Qu'en est-il de l'eau et de l'électricité?
L'eau et l'électricité, il y en a. Tout à l'heure, quand même, il y a eu une coupure d'eau. On nous a expliqué que c'était dû aux combats qui sont en cours entre l'armée loyaliste et les putschistes. Il y a eu certains bâtiments de la régie des eaux, donc la société qui fournit de l'eau ici au Burundi, qui ont été abîmés. On n'en sait pas plus parce que là, on s'informe via les réseaux sociaux, donc on n'est pas sûr que ce soit une information vérifiée. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dans la plupart des quartiers, il n'y a pas d'eau potable dans les robinets, quoi. Mais l'électricité, il y en a.
Voilà, c'était Karine Sirioko de la radio publique africaine, station partenaire de VOA Afrique à Bujumbura.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi au Burundi. Malgré la pression de la rue et les appels de la communauté internationale, Pierre Nkurunziza persiste, il est candidat pour un troisième mandat à la tête du pays. Où va le Burundi alors que le scrutin présidentiel se rapproche à grands pas? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
La crise burundaise est indissociable du conflit qui embrase la région des Grands Lacs depuis des années. C'est en tout cas l'opinion de Deo Hakizimana, candidat indépendant à la présidentielle burundaise de 2010 et historien. Il est joint à Bujumbura par Frédéric Nkundikiji du service Kirundi Kinyarwanda de la VOA.
Le Burundi est au cœur d'une région troublée depuis plus de 20 ans. C'est un conflit géopolitique majeur qui secoue l'Afrique jusqu'au-delà des frontières continentales. Et j'ai le sentiment que même si on ne le dit pas très clairement, c'est difficile évidemment à déclarer comme je pourrais le faire parce que je n'ai pas toutes les informations, mais j'ai le sentiment que la question des contrats miniers, la question du contrôle des ressources est au cœur des rivalités qui sont en train de se jouer et qui se sont manifestées à travers la question du troisième mandat.
Est-ce qu'on peut avoir des détails? Parce que là, vous nous révélez une information tout à fait nouvelle.
Je suis de formation géopoliticienne, donc je cherche la vérité où elle se trouve. J'analyse les non-dits, les on-dits, etc. Et j'ai compris que dans ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il est faux, ne le dites plus, que le Burundi est un pays pauvre. Non, c'est un pays extrêmement riche. Certaines ressources minérales qui se trouvent dans le Congo voisin se trouvent également au Burundi. Nous avons un nickel de haute qualité qui compte parmi les meilleurs de la planète. J'ai entendu que d'autres découvertes ont été faites. Le lac Tanganyika est une richesse stratégique et introuvable nulle part ailleurs en Afrique, sinon qu'au Burundi, au bord de la ville de Bujumbura. Bujumbura est la seule capitale d'un pays de l'Afrique des Grands Lacs qui est riverain de ce lac Tanganyika, qui est une manne. Vous savez, c'est la deuxième réserve mondiale d'eau douce, un lac très profond dans lequel il y aurait des hydrocarbures, etc. Et vous savez que ça suscite des appétits. Vous connaissez l'histoire des guerres par procuration, des guerres où les élites locales vont se livrer à des conflits fratricides en pensant qu'ils sont opposés par des aspects ethniques, régionalistes, claniques, et j'en passe, alors qu'en réalité, ils sont en train de s'entremanger à cause de problèmes de contrôle des ressources.
On écoutait Deo Hakizimana, candidat indépendant à la présidentielle burundaise de 2010 et historien.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
En République démocratique du Congo, une motion de défiance a été initiée au Parlement contre le ministre de la Défense au sujet des massacres qui se poursuivent dans le territoire de Béni, dans le nord-est du pays.
République centrafricaine, plus de 350 enfants soldats ont été libérés aujourd'hui dans la région de Bambari.
Les principaux groupes rebelles Touareg du nord du Mali ont paraphé ce jeudi à Alger l'accord de paix adopté en mars par les autorités maliennes et des mouvements pro-gouvernementaux.
La veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, est arrivée ce soir à l'aéroport de Ouagadougou. Bien sûr, c'était la fête chez les Sankaristes.
Réunion du G5 Sahel à Niamey au Niger. Les États membres ont affirmé aujourd'hui leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et au trafic de migrants.
L'armée du Nigeria a imposé ce jeudi un couvre-feu à Maïdougouri au lendemain de la première attaque de Boko Haram en 2 mois. Contre la capitale de l'État de Borno, fief historique du groupe islamiste.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a procédé à un remaniement ministériel marqué par le départ des ministres clés de l'Intérieur, de l'Énergie et des Finances.
Le président américain Barack Obama et des hauts responsables de 6 nations du Golfe arabo-persique ont poursuivi leur sommet aujourd'hui dans la retraite présidentielle de Camp David, à environ 100 km au nord de Washington. Ils discutent de la situation au Moyen-Orient.
Et après la destruction de plusieurs sites historiques en Irak, le groupe État islamique menace la ville de Palmyre. Cette édition touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Issia Kaba, présentation Morgan Diriek et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui.